La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigue littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigue littéraire de ce jeudi 26 février 2026. Toute cette histoire étrange a commencé un matin de classe ordinaire. On avait eu une leçon de conjugaison et on avait récité nos tables de multiplication. Après la récréation, la maîtresse a subitement pris un air très réjoui. C'est là qu'elle dit « Les enfants, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Cette année, nous allons faire un projet pédagogique sur l'Afrique et plus précisément le Bénin. Tout d'abord, nous allons découvrir le Bénin. Vous ferez par groupe des exposés qui vont nous permettre de mieux connaître ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. En même temps, vous allez correspondre avec des enfants d'une classe du Bénin. Puis, en fin d'année, nous nous rendrons au Bénin pour le visiter et rencontrer vos correspondants. Au début, nous serons en groupe avec les élèves béninois et à la fin du séjour, chacun restera 3 jours dans la maison de son correspondant. C'est l'incipit du roman historique pour enfants, La prophétie accomplie. Une sciature de Emmanuelle Berny Laleillet, écrivaine, avec l'accompagnement de Arcel Loïc Akani, illustrateur et animateur 3D. La prophétie accomplie est parue en 2025 aux éditions Spirit Press. C'est un livre de 115 pages, scindé en 9 chapitres. Ce livre s'intéresse relativement au commerce triangulaire, l'esclavage. Mais avant de l'explorer, nous allons suivre le cachet littéraire avec Nadia Podito. Nadia, bonjour.
Bonjour Enoch.
Vous allez bien?
Je vais très bien.
Qu'est-ce qu'on retient?
Précieux auditeurs de la web Radio Éducation, bonjour et bienvenue dans votre cachet littéraire. Ici, le mot vibre et la littérature prend la parole. Lorsque la littérature s'ouvre au monde, le talent béninois répond présent. Un appel à candidature est lancé pour représenter le Bénin au jeu de la francophonie prévu à Erevan en Arménie du 23 juillet au 1er août 2027. La littérature, notamment la nouvelle, figure au cœur des disciplines concernées par cette présélection nationale. Une opportunité majeure pour les plumes béninoises appelées à porter leurs récits, leurs réflexions sur une scène internationale. Les artistes et créateurs ont jusqu'au 27 février 2026 à 23h59 pour soumettre leur candidature. Pendant que le pays se prépare à dévoiler ses talents, la langue elle aussi se cultive dès le plus jeune âge. Dans le cadre de ces activités dédiées à la jeunesse, l'espace culturel Le Centre organise le challenge Épelle-moi, prévu le samedi 28 février 2026 à 10h à Abomey-Calavi. Destiné aux membres du club de lecture Mon livre, mon ami, ce rendez-vous ludique et éducatif vise à renforcer l'orthographe, enrichir le vocabulaire, stimuler la culture générale et encourager la prise de parole en public. Place à l'échange avec des auteurs inspirants. La librairie Théraplume annonce une rencontre exceptionnelle avec le lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin 2022, Daniel Amoussou, autour de son roman Le Camp Zéro. L'événement est prévu pour le samedi 28 février 2026 prochain à 15h au siège de Théraplume à Godomé. Un moment d'échange avec l'auteur suivi d'une séance de dédicace et de lancement officiel des précommandes de l'ouvrage afin de soutenir la création littéraire béninoise et ses voix engagées. Pour prolonger cet élan littéraire au quotidien, une bonne nouvelle attend les lecteurs assidus. Le challenge de lecture « Je lis chaque jour » voit l'acte 1 de sa saison 3 prolongé d'une semaine supplémentaire. Au lieu de 4, ce challenge comptera désormais 5 semaines, offrant ainsi à ceux qui n'avaient pas encore commencé et permettant à tous de renforcer leur lecture quotidienne. Car lire chaque jour, c'est cultiver la discipline personnelle, aiguiser son esprit critique et ouvrir son imaginaire. Cet imaginaire a porté la littérature béninoise à l'international. Une voix féminine s'illustre au plan continental. Carmen Fifame Tudonou, à travers son dernier roman Paria, est finaliste au Grand Prix Afrique 2025. Que la chance l'accompagne. C'était votre cachet littéraire. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, Nadia Poditor. Je l'avais annoncé, nous parlerons aujourd'hui du livre « La prophétie accomplie » de Emmanuel Bernie Laleillet. Avant d'aller dans les détails, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducaction.
Éducaction, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour parcourir le roman jeunesse « La prophétie accomplie », une plume de Emmanuel Bernie Laleillet, écrivaine et deux fois finaliste au Grand Prix littéraire du Bénin. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Comment vous allez?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Je vais très bien aussi. Alors, Assel Loïc Akani est l'illustrateur de ce livre. Comment s'est passée la collaboration avec ce dernier?
Assel Loïc est un illustrateur avec qui j'aime bien travailler. On a travaillé sur de nombreux projets. Ce qui est agréable avec lui, c'est qu'il capte tout de suite dans l'histoire qu'est-ce qui va faire une bonne illustration. Et puis, c'est quelqu'un qui respecte les délais et qui n'a aucune difficulté à modifier les images si on demande des corrections. Donc vraiment, c'est une personne avec qui c'est agréable de travailler et j'aime beaucoup ses dessins.
Alors, l'incipit du roman « La prophétie accomplie » est en gras. Pourquoi cette démarcation?
C'est la graphiste qui avait proposé cette démarcation et j'avais trouvé ça accrocheur en fait. On voit tout de suite la première phrase et j'espère qu'en tout cas ça donne envie au lecteur de s'accrocher à l'histoire.
Alors, le livre « Racine » de Alès Raleigh serait l'élément déclencheur de cette plume au service des enfants ayant au moins 8 ans.
Oui, alors pour les auditeurs, je peux faire un petit résumé du livre. Dans ce livre, l'auteur, en fait, c'est une histoire autobiographique, est un descendant d'esclaves aux États-Unis. Il remonte la généalogie de sa famille grâce à des documents papier qu'il trouve aux États-Unis. Et à un moment, il est bloqué puisque il est remonté jusqu'à l'ancêtre qui est arrivé par bateau. Mais il a des mots qui se sont transmis dans sa famille. Donc, il va avoir un spécialiste des langues africaines. Et ce spécialiste, à partir des mots, lui indique la région d'où est originaire son ancêtre. Donc, il part là-bas en se disant peut-être qu'il va trouver des informations sur sa famille. Et de fil en aiguille, il arrive à retrouver son village natal, enfin le village natal de son ancêtre. Et le griot raconte l'histoire du village. Donc il déroule toute une généalogie. Il n'y a pas de date, mais c'est assez précis quand même. Et à un moment donné, il parle d'une famille dont l'enfant est parti dans la brousse pour faire un tambour, pour chercher du bois, pour faire un tambour, et qui n'est jamais revenu. Et donc ça, c'est aussi un récit qu'il a eu de son côté oralement. Donc en fait, il arrive à remonter le fil de sa généalogie par le griot. Donc il a eu les papiers du côté américain et du côté africain. Il a une histoire encore plus ancienne et qui a été transcrite uniquement par l'oralité. Donc c'est assez touchant en fait ce moment où il retrouve toute sa généalogie familiale grâce à quelqu'un qui en a gardé la mémoire.
Alors ce livre que vous avez lu, est-ce qu'il a influencé votre plume dans voilà. Le cadre de ce projet d'écriture?
Donc j'avais envie de faire une histoire où le griot jouerait un peu ce rôle de passeur d'histoire qui permettrait au protagoniste de l'histoire de lui aussi remonter son histoire. Mais donc je voulais situer ça avec un enfant. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait des histoires de paperasse, de généalogie. Donc, c'est pour ça que j'ai placé ça sur un plan un peu plus spirituel, en fait, dans le lien qui s'est établi entre cet enfant qui est descendant d'esclaves, qui vient au Bénin, qui retrouve sa généalogie grâce à un griot.
Alors, Alès Raleigh vous a influencé dans votre plume. Est-ce que les griots jouent aujourd'hui leur rôle?
Alors, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour savoir comment les griots continuent par transmettre les histoires familiales dans les villages. J'espère que c'est toujours le cas. En tout cas, ils sont détenteurs d'une histoire, d'une mémoire très importante. Et peut-être que le passage à l'écrit de tout ce qu'ils connaissent, en fait, serait vraiment quelque chose d'utile pour la conservation. Parce que je ne sais pas si les jeunes s'intéressent encore à ces récits, s'ils font encore l'effort de les mémoriser aujourd'hui, quoi.
Alors, est-ce que les deux personnages principaux sont un hommage à Assel Loïc Akani et Alès Raleigh, ou c'est une coïncidence?
Mais en fait, c'est une coïncidence. C'est assez drôle, mais j'y ai pas pensé.
Donc, je vous amène à penser à cela, alors.
Voilà.
Alors, vous avez écrit Le mystère des anciens volés, un livre qui valorise les vestiges du royaume d'Aboumé. Aujourd'hui, vous revenez avec La prophétie accomplie, qui vient mettre le couteau dans la plaie. Enfin, vous rappelez la traite des esclaves de l'Atlantique à Ouida.
Ah, mais je pense que c'est important de se souvenir de son histoire, même dans ses côtés sombres. Et donc, voilà, il y a la transmission par l'école. Et je trouve que dans le livre, on peut avoir une transmission beaucoup plus émotive, en fait, plus fondée sur l'émotion, l'attachement au personnage. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant dans les livres aussi, avec des histoires peut-être un peu distrayantes, d'amener les enfants autrement à s'intéresser à leur histoire.
Alors, en classe, la maîtresse a notifié à ses apprenants qu'ils iront au Bénin. Alès, le personnage principal, à l'instar de ses camarades de classe, doit envoyer une correspondance à un Béninois afin de tisser des relations amicales. Son courrier tombe dans les mains de Alès. C'est Axel, autant pour moi. Alors, vous semblez faire l'anagramme avec ces deux personnages-là. Visiblement, ils sont nés un 7 novembre, ayant tous la passion pour le football, la littérature.
Voilà, donc l'idée, c'était d'instiller progressivement les points communs que ces deux personnages ont pour que le lecteur, progressivement, découvre en fait tout ce qui les lie. Donc au début... Il y a une progression des sentiments, en fait, de Alex. Axel déclare tout de suite qu'ils sont très liés, qu'il va découvrir plein de choses sur les liens qu'il y a entre eux. Mais lui, il est un peu sceptique. Et donc, il y a des petits indices, en fait, dans l'histoire qui montrent que quand même, il y a des liens qui existent. Et donc, c'est au fur et à mesure que le lien entre ces deux enfants va se révéler.
Alors, Alès et Théo ont choisi un thème d'exposé. Je cite « La route de l'esclave et la porte du non-retour à Ouida ». Pourquoi les étrangers, selon vous, s'intéressent souvent à Ouida, notamment la route des pêches et la porte du non-retour ?
Alors déjà, ils choisissent ce thème d'exposé. Pour moi, c'était une façon didactique, en fait, d'introduire un petit rappel sur ce qu'est la porte du non-retour pour que les lecteurs ne soient pas perdus quand ils vont lire l'histoire. Mais d'autre part, les étrangers, surtout, on est sur des étrangers donc, qui sont des afro-descendants. C'est normal qu'ils s'intéressent à cette histoire de traite transatlantique. Moi-même, j'ai des amis qui sont venus, qui sont d'origine... de Guadeloupe, et on avait fait ensemble la porte du non-retour, toute la route de l'esclave, et c'est vrai que c'était émouvant pour eux de marcher dans ces traces-là, en fait, et de se dire que peut-être leur ancêtre était parti d'ici. Donc c'est un pan de leur histoire qu'ils ne peuvent pas connaître, parce que les généalogies souvent sont, contrairement à Alex Alec qui a réussi à remonter sa généalogie, souvent les esclaves étaient vendus et les papiers ne permettaient pas de garder la trace des histoires, donc ça leur permet de se projeter, en fait, dans une histoire qu'ils ne connaissent pas.
Alors, que gardez-vous de cet événement qui a laissé une trace indélébile à Ouida ? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cet événement-là ?
Donc chaque fois qu'on fait cette visite, c'est quand même assez éprouvant, parce que quand on voit tous les sévices qui étaient infligés là-bas, c'est vrai que c'est pas forcément la visite la plus agréable du Bénin, mais c'est quand même important de se souvenir de ça.
Alors, le Bénin vend depuis un moment sa culture à travers vos Dundays. Quelle est votre perception de la chose ?
Alors, je trouve que c'est vraiment bien que le Bénin se réapproprie sa culture et en soit fier. C'est vrai que je trouve qu'il y a un changement. Ça fait 20 ans que je suis au Bénin. Je trouve qu'il y a un changement dans les mentalités, qu'il y a cette volonté de se réapproprier sa culture, de s'en sentir fier, quand peut-être avant, les gens se sentaient plus infériorisés, ou je sais pas, il y avait peut-être un petit complexe d'infériorité. Voilà, ils sont en train de dépasser ce complexe d'infériorité et de retrouver un peu leur fierté. C'est avec aussi ce mouvement des restitutions des œuvres d'art, des biens pillés, tout ça. C'est quelque chose de chouette, en fait, de voir un peuple retrouver sa fierté, et c'est une belle dynamique.
Auditeurs et auditrices de la web radio Éducation, amoureux des belles lettres, une pause s'impose. Écoutez.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mille ans sous un roule, mais oui, vide à gré d'agré. Boy, ça n'a eu voé. Bono droit, yo vo, ou est domié. Mille ans sous un sanoué, yo vo do horo misi. Mime po, et si et chewe, mido sanon vile. Ou c'est un péché commun entre vendeur et acheteur.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Il en sous un vrai mérite, il a vrai d'agréable.
Boy, sa do yo vo, bro do yo vo, ou e do mi e. Mon mi lo su e sa nu e,
yo vo do
kon mi. A mon mi me.
C'est un péché commun entre noirs et blancs.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mirosu e we me we vi dagbe dagbe e boy sana yo voe bono dro yo vo we domie mirosu e sanu e yo vo do horomi for me me po e siete we mi do sanu vile o c'est un péché commun entre noir et blanc.
Retour en studio pour la suite de nos échanges sur le livre La prophétie accomplie de Emmanuel Bernie Lalayet, autrice de plusieurs livres pour enfants. Vous êtes revenu dans un style simple sur la guerre qui avait existé entre les grands royaumes du pays, la vente des hommes noirs. Est-ce qu'opportun d'en parler aux enfants?
Je pense que c'est toujours opportun de connaître la vérité sur son histoire, d'être lucide dessus. Après, personne n'est responsable des actes qui ont été posés par ses ancêtres. Mais c'est important d'être lucide dessus et de savoir aussi que c'est un guide pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Bon, c'est vrai que c'est un guide pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais il faut noter que Alès, le personnage principal, a été affecté de façon négative. Ne pensez-vous pas qu'il y aura des Alès qui vont tomber sur ce livre-là?
Non, je pense que le livre est quand même porteur d'un message positif, puisque à la fin, c'est justement ce fait de renouer avec ce passé qui fait qu'il a une relation apaisée avec son correspondant par la suite et qu'il a l'impression de s'être enrichi de cette expérience. Donc, non, je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, le guide l'enrichit. Au début, on voit que le personnage ne s'intéresse pas à l'histoire de l'esclavage. Hein. Il y a la première de la classe qui dit « Waouh, super, on va retourner sur la tête de nos ancêtres ». Lui, il se dit « Mais moi, j'aurais mieux aimé aller aux États-Unis. Ça m'intéresse plus la culture noire américaine que l'Afrique ». Donc, finalement, c'est cette connaissance de l'histoire qui lui permet aussi de se réapproprier un pan de sa personnalité.
Alors, je vais lire rapidement un extrait. La route de l'esclave commence sur la place Chacha, qui était la place de Ouida où avait lieu la vente des esclaves. Ensuite, les esclaves devaient parcourir quelques kilomètres jusqu'à la côte où les navires les attendaient. En chemin, ils croisaient un endroit appelé l'Ab de l'Oubli. Les esclaves hommes, 9 fois le tour de la droite vers la gauche, et les femmes, 7 fois de la gauche vers la droite. Le but était de faire oublier aux esclaves qui ils étaient. Ils attendaient ensuite dans une case aussi sombre que les cales des navires, et ils en sortaient pour aller prendre leur bateau. Mais en sautant, ils devaient faire un dernier rituel. Il y avait un deuxième arbre appelé arbre de retour. C'était un arbre mystique qui avait pour but d'attacher l'âme des esclaves à leur terre natale. Alors, Emmanuel, quelle jonction faites-vous entre l'arbre de l'oubli et celui du retour?
Alors, dans l'histoire, l'arbre de l'oubli a un rôle important à jouer, puisque c'est en tournant à l'envers autour de l'arbre de l'oubli, que Alex fait revenir en fait les souvenirs de son ancêtre qui est passé par là. Et c'est ça qui va déclencher une série d'événements ensuite, puisqu'il va être un peu perdu avec les souvenirs de cet ancêtre qui vont venir l'encombrer. Mais l'arbre du retour aussi a un rôle qui est peut-être moins développé dans le livre, mais donc c'est cette histoire d'attacher l'âme au territoire. Et finalement, avec la venue de Alex au Bénin, c'est l'âme de l'ancêtre qui revient aussi sur son territoire et qui retrouve son jumeau, puisque c'est une histoire de jumeaux qui sont liés par le passé et qui devraient être normalement inséparables et qui avaient été donc séparés par la traite négrière. Et donc c'est ces retrouvailles qui font que effectivement ces jumeaux restent liés par-delà le temps, quoi.
Voilà, vous l'avez notifié, Alessa fait le tour de l'arbre. C'était une idée qui germait en lui alors qu'il était en Martinique. Comment peut-on s'organiser quand on sait que les enfants, quand ils ont une idée, ils font tout possible pour concrétiser cette idée-là? Comment s'y prendre en tant que parent, souvent? Souvent quand on trouve que l'idée est risquée.
Ah, on essaye de déconseiller à ses enfants. Après, on ne peut pas tout contrôler. Effectivement, je sais que vous pointez souvent que dans mes histoires, les enfants désobéissent. Et d'ailleurs, vous remarquerez que cette fois-ci, quand ils désobéissent, ils se font punir à la fin. Donc, il y a quand même une leçon de morale sur le fait qu'il ne faut pas trop dépasser les bornes. Mais mais c'est toujours... Bon, alors là, il a été un peu fanfaron, il a fait ça en pensant que ça ne pouvait pas avoir de conséquences. En fait, il le fait... pour lui, il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'implication, il n'y aura pas de conséquences dans son acte. C'est juste pour faire son malin devant ses camarades de classe. Par contre, à un moment plus tard dans l'histoire, il désobéit. Mais là, c'est parce qu'il y a un peu de nécessité, quoi. Il ne peut pas expliquer toute son histoire à un adulte qui va l'écouter, qui va le comprendre et qui va l'aider. Donc, s'il veut régler son problème, il est obligé de désobéir. Mais il se fera punir au retour. Donc, il y a un équilibre.
Puni au retour. Est-ce que ce sont les observations de l'émission La Vigueur Littéraire qui vous ont amené à chercher maintenant à punir les enfants quand ils désobéissent?
Mais peut-être que ça m'a travaillé aussi.
Alors, est-ce que c'est le courage ou la curiosité qu'il faut noter chez Alès?
Quand il tourne autour de l'arbre à l'envers, là, c'est ni le courage ni la curiosité. Je pense qu'il est fanfaron. Il veut juste faire son malin devant ses camarades. Donc, il pense que ça n'aura pas de conséquences. Donc, c'est même pas du courage, c'est plutôt de l'inconséquence, on va dire.
Alors, j'ai le sentiment qu'il y a une connexion entre Alès et Arcel. Ils sont des jumeaux d'âme, vous avez dit. Que mettez-vous dans les jumeaux d'âme?
Alors, les jumeaux d'âme, ben, donc, c'est justement ces deux frères jumeaux du passé qui ont été séparés, mais qui devaient rester liés à tout jamais. Et donc, c'est leurs descendants qui vont en fait incarner cette union des deux frères qui se retrouvent.
Quelle est votre perception des jumeaux dans le contexte africain?
Alors oui, les jumeaux dans ce contexte, c'est vraiment très différent en France. Il y a de la conception française, on va dire, il y a une dimension mystique. Moi, j'observe, je ne suis pas dans ces aspects-là, quoi. Donc j'observe avec mon regard d'étranger.
Dans quel aspect?
Je regarde avec mon regard d'étranger. Et donc,
et après,
du coup, ben, je trouve ça intéressant, je trouve ça questionne, quoi. Ça, on se demande quelle part de vérité il peut y avoir dedans. Mais bon, toujours en restant très, très distancé quand même, c'est pas ma culture. Donc, j'ai une position très observatrice. Mais d'ailleurs, du coup, ça m'a plu d'écrire ce livre parce que Alex, il vient de Martinique, il a un regard quand même assez occidental sur l'Afrique. Et du coup, c'est un peu mon regard. Parfois, il découvre, il est là un peu naïf, il est, voilà, donc il est un peu, voilà, parfois surpris. Et il y avait un peu de moi dans le personnage quand je suis arrivée et que je découvrais le Bénin.
Donc, il y a donc une relation entre le pays de Alès et celui de Arcel.
Oui, bah, au niveau du peuplement, effectivement, il y a une relation entre la Martinique et le Bénin.
Alors, il y a une insistance de Arcel en ce qui concerne l'arrivée de Alès au village. Est-ce qu'une connexion ou une reconnexion ancestrale?
Alors, c'est ça. Axel, il connaît une part de l'histoire que Alex ne connaît pas encore. Il veut vraiment que Alex la découvre. Et il le contraint un peu à venir au village parce que justement, il pense que c'est important cette reconnexion. Et il va être un peu dépassé aussi par les événements parce que finalement, la reconnexion va être plus forte que ce qu'il avait attendu avec Alex qui se prend carrément à se dire « Non, maintenant c'est son village, il ne va plus repartir, il va rester là pour toujours. » Et l'autre se dit « Mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, il y a eu cette reconnexion. Après, ça a un peu embrouillé, on va dire, l'esprit de Alex qui découvre beaucoup de choses. Et donc, cette reconnexion, c'est pas non plus quelque chose qui doit rester dans le temps. Chacun a sa vie, chacun vit quelque part. Ils peuvent garder un lien, mais ils peuvent pas non plus bouleverser leur vie à cause de cette histoire.
Alors, vous amenez Alex à désobéir à la maîtresse. Je reviens là-dessus. Alex, qui était censé suivre toute une équipe, s'est vu désorienté par Arcel. Et finalement, il s'est retrouvé dans des conditions un peu bizarres qui lui rappellent un peu son passé lointain parce que ses ancêtres auraient pris part là. Quelle est la portée symbolique de cet aspect-là que vous avez dévoilé dans votre livre?
Donc là, pour moi, c'est pas qu'il a désobéi.
Il n'a pas désobéi?
Non.
Il a écouté
les parents de son correspondant. Voilà, non. La maîtresse a donné des consignes aux parents. Ils doivent rester à Cotonou. Et les parents passent outre les consignes et l'emmènent au village. Mais lui, il est un enfant avec des adultes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est un peu obligé de suivre le mouvement, même s'il sait que sa maîtresse avait donné une consigne qui est autre.
Mais si arrivé là-bas, quelque chose de désagréable se produisait, à qui on va imputer le tort? Qui sera capable?
Les adultes. C'est les adultes qui sont responsables. Pour moi, là, c'est les adultes qui sont responsables de l'enfant. On leur a confié un enfant avec des recommandations. Ils outrepassent les recommandations. Ils n'ont pas respecté le contrat. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va faire?
Les adultes, les parents de Arcel.
Voilà.
Il n'y a pas la maîtresse qui est dedans parce qu'elle est l'œil des parents de Arcel au Bénin.
Elle les confie 3 jours et elle fait confiance aux parents de Alex, il y a une convention, il y a quelque chose d'écrit, mais les autres sont passés outre.
Je pense que vous êtes en train de vouloir ne pas tenir compte des questions liées à la protection de l'enfance. C'est un sujet que vous abordez très sensiblement, mais est-ce que vous pensez que si on donne un contrat, je pèse bien mes mots, le contrat est établi où il est dit que l'enfant est appelé à rester à Cotonou, mais par un concours de circonstances, l'enfant quitte Cotonou pour un village qu'il ne connaît pas en Crif ou qu'il aurait connu grâce à ses ancêtres. Dans ce contexte-là, quelle est la place que vous donnez à la question de la protection de l'enfance ?
D'accord, alors effectivement, si c'était mes enfants, j'aimerais pas qu'on les emmène quelque part à mon insu ou à l'insu de la maîtresse à qui j'ai confié mes enfants. Après, ce sont des histoires avec des personnages qui ne sont pas forcément des modèles. Il y a une trame narrative et il faut quand même que l'histoire se déroule. Donc, c'est pas dit que tous les personnages qui sont dans l'histoire sont donnés en modèle pour des parents. Ce ne sont pas des références éducatives. C'est pas la prétention du livre.
Donc c'est pour respecter le procédé narratif que vous avez essayé de tordre un peu le cou au personnage que vous avez dans le livre, histoire
d'obtenir
le résultat.
Voilà, c'est ce que je vous ai toujours un peu dit par rapport aux histoires, c'est-à-dire que si vous racontez l'histoire d'un petit garçon sage qui étudie et qui est toujours poli, ça va être très vite ennuyeux pour le lecteur. Donc il faut quand même qu'il y ait une histoire dans le roman. Donc
c'est vrai que vous me l'avez dit plusieurs fois, mais les auditeurs ne l'ont pas entendu plusieurs fois. Alors je vais vous demander de nous donner lecture. D'un extrait. Nous sommes à quelle page ?
Page 76. Allez, on sortait des nattes et des fauteuils, et puis tout le monde s'est assis à l'ombre de l'arbre. Le cam est peu à peu revenu, et le griot a commencé à chanter. Il chantait dans sa langue, le fongbé, ce qui fait que je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Il s'accompagnait avec son drôle de petit tambour. Il le tenait sous l'aisselle et tapait dessus avec un petit bâton. Le son du tambour était modulé quand il serrait son bras, car cela tendait les cordes qui retenaient les peaux sur lesquelles il tapait. J'ai tout de suite aimé ce son. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. De même que la façon de chanter du griot, les intonations de sa voix, tout cela m'était étrangement familier.
Alors, merci beaucoup. Nous sommes en train d'épurer tout le temps. Je vais vous demander de conclure en quelques mots. Quel est votre mot de la fin ?
Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai donné envie au lecteur de se plonger dans l'histoire d'Alex et d'Axel. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui m'a donné l'occasion de présenter ce livre.
Merci. Qu'est-il arrivé à Alex au fil des pages du livre ? Je préfère laisser le lecteur découvrir. Fait lire la prophétie accomplie aux enfants. C'est leur apprendre un pan de l'histoire assez sur le commerce triangulaire. C'est leur donner le goût à la recherche des faits ayant marqué Ouida, la cité historique, objet d'attraction depuis un moment. Lire la prophétie accomplie, c'est voir la manière dont les descendants d'esclaves ont une connexion, voire reconnexion avec leur pays natal, leur souche. Et la reconnexion s'opère à travers des faits et des gestes, à travers des simagrées, à travers la philosophie ancestrale. Avant de nous séparer de vous, il me plaît de partager cette citation de l'essayiste français Louis de Bonald. Je cite « La littérature est l'expression de la société comme la parole est l'expression de l'homme ». Fin de citation. Quant à moi, je dirais à mon tour le livre « Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur ». Fédina Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Jidas Beyanzin Awagbe, Franklin Guignon, Nadia Kodito et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Jidas Beyanzin Awagbe a assuré la manipulation technique. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guidime. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue Littéraire. Comme on le dit en Lingala, Tikalamamu.
La Vigule littéraire.
La Vigule littéraire. La Vigule littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigule littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.